Audible Studio présente « Sauver sa peau » de Lisa Gardner, traduit par Cécile Deniard, lu par Maud Rudigoz. Chapitre 1. Mon père m'a expliqué ça pour la première fois quand j'avais 7 ans. Le monde est un système. L'école est un système. Les quartiers sont des systèmes. Les villes, les gouvernements, n'importe quel grand groupe de gens. Le corps humain aussi d'ailleurs. Un système qui fonctionne grâce à de petits sous-systèmes biologiques. La justice pénale, évidemment, un système. L'Église catholique, ne le lancez pas là-dessus. Et puis, il y a les fédérations sportives, les Nations Unies, et bien sûr, le concours de Miss Amérique. « Tu n'es pas obligé d'aimer le système », me sermonnait-il. « Tu n'es pas obligé d'y croire ou d'y adhérer, mais il faut que tu le comprennes. Si tu comprends le système, tu survivras. » Une famille est un système. En revenant de l'école cet après-midi-là, j'avais trouvé mes deux parents dans le salon. Mon père, professeur de mathématiques au MIT, était rarement rentré avant 19h, mais là, il se tenait près du canapé à fleurs que ma mère aimait tant, cinq valises soigneusement rassemblées à ses pieds. Ma mère pleurait. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, elle s'est détournée comme pour se cacher le visage, mais je voyais encore trembler ses épaules. Mes deux parents portaient de gros manteaux en laine, ce qui était étrange vu la relative douceur de cet après-midi d'octobre. Mon père fut le premier à parler. « Il faut que tu ailles dans ta chambre. Prends deux choses, celles que tu voudras, mais dépêche-toi, Annabelle. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Les épaules de ma mère tremblèrent de plus belle. Je posai mon sac à dos et battis en retraite dans ma chambre, où je contemplais mon petit univers rose et vert. De tous les instants de mon passé, c'est celui que j'aimerais le plus revivre. 3 minutes dans la chambre de mon enfance. Mes doigts, qui effleuraient le bureau couvert d'autocollants, rebondissaient sur les photos encadrées de mes grands-parents, survolaient ma brosse argentée ciselée et mon immense miroir à main. Je fis l'impasse sur mes livres, ne songeais pas un instant à ma collection de billes ou à ma pile de dessins du jardin d'enfants. Je me rappelle avoir fait un choix littéralement déchirant entre mon chien en peluche préféré et mon tout nouveau trésor, une Barbie en robe de mariée. Je pris mon chien, Boomer, puis attrapai mon doudou adoré, un bout de tissu à carreaux rose foncé, avec une bordure en satin rose pâle. Pas mon journal intime, pas le tas de messages pleins de bêtises et de gribouillis de ma meilleure amie, Dori Petracelli. Pas même mon album de naissance, grâce auquel j'aurais au moins eu des photos de ma mère pour toutes ces années à venir. J'étais une jeune enfant apeurée, et j'ai agi comme une enfant. Je crois que mon père savait ce que j'allais choisir. Je crois qu'il a tout vu venir dès cette époque. Je retournais dans notre séjour. Mon père était dehors, à charger la voiture. Ma mère tenait à deux mains le pilier qui séparait le séjour de la cuisine et du coin repas. Un instant, j'ai cru qu'elle n'allait pas lâcher. Elle allait résister, exiger que mon père arrête ses bêtises. Au lieu de cela, elle caressa mes longs cheveux bruns. « Je t'aime tellement. » Elle m'attrapa, me serra farouchement dans ses bras, ses joues mouillées sur le sommet de ma tête. Un instant après, elle me repoussa, s'essuya vivement le visage. « Sors, chérie. Ton père a raison, il ne faut pas traîner. » Je suivis ma mère jusqu'à la voiture, Boomer sous le bras, les deux mains cramponnées à mon doudou. Nous prîmes nos places habituelles, mon père au volant, ma mère sur le siège passager, moi à l'arrière. Mon père fit reculer notre petite Honda dans l'allée. Des feuilles jaunes et oranges tombèrent du hêtre en tourbillonnant, dansèrent devant la fenêtre de la voiture. Je posai mes doigts écartés sur la vitre, comme si je pouvais les toucher. « Fais coucou aux voisins, » ordonna mon père, « comme si tout était normal. » Ce fut la dernière fois que nous vîmes notre petite impasse parsemée de chênes. Une famille est un système. Nous roulâmes jusqu'à Tampa. Ma mère avait toujours voulu voir la Floride, expliqua mon père. Est-ce que ça ne serait pas chouette de vivre au milieu des palmiers et des plages de sable blanc après tous ces hivers en Nouvelle-Angleterre? Puisque ma mère avait choisi la destination, mon père choisit les noms. Je m'appellerai désormais Sally. Lui serait Anthony et ma mère Claire. N'est-ce pas que c'était drôle? Une nouvelle ville et un nouveau nom. La grande aventure. Je fis des cauchemars au début, des rêves absolument épouvantables dont je me réveillais en hurlant. « J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. » « Ce n'est qu'un rêve, » tentait de me rassurer mon père en me caressant le dos. «
Mais j'ai peur !»
Chut. Tu es trop jeune pour savoir ce que c'est que la peur. Les papas sont là pour ça. Nous ne vivions pas au milieu des palmiers et des plages de sable blanc. Mes parents n'en parlaient jamais, mais maintenant que je suis adulte, je comprends a posteriori qu'un docteur en mathématiques ne pouvait pas vraiment reprendre là où il en était resté, surtout sous une fausse identité. Mon père prit donc un emploi de taxi. J'adorais son nouveau travail. Grâce à lui, papa était à la maison l'essentiel de la journée, et puis ça faisait chic d'avoir mon propre taxi qui venait me chercher à l'école. La nouvelle école était plus grande que l'ancienne, plus dure. Je crois que je me suis fait des amis, même si je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis de notre passage en Floride. J'ai plutôt l'impression générale d'un temps et d'un lieu irréel où je passais mes après-midi à recevoir des cours d'autodéfense pour enfants de CP et où même mes parents me faisaient l'effet d'étranger. Mon père, constamment en train de s'activer dans notre deux pièces. « Qu'est-ce que tu en dis, Sally ? On va se décorer un palmier pour Noël. Oui, monsieur, c'est maintenant qu'on s'amuse. » Ma mère, qui fredonnait distraitement en repeignant notre séjour en corail vif, gloussait en s'achetant un maillot de bain en novembre, paraissait sincèrement intriguée en apprenant à cuisiner divers poissons blancs bizarroïdes. Je crois que mes parents ont été heureux en Floride. Ou du moins déterminés. Ma mère décora notre appartement. Mon père reprit son passe-temps, le croquis. Les soirs où il ne travaillait pas, ma mère posait pour lui à côté de la fenêtre et je m'allongeais sur le canapé, contente de voir les coups de fusain habiles de mon père croquer le sourire taquin de ma mère sur une petite esquisse. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école pour trouver les valises faites, les visages fermés. Inutile de demander cette fois-ci. Je suis allée de moi-même dans ma chambre, j'ai attrapé Boomer, trouvé mon doudou. Puis je suis allée à la voiture et je suis montée à l'arrière. Il s'est passé du temps avant que l'un de nous n'ouvre la bouche. Une famille est un système. Encore à ce jour, je ne sais pas dans combien de villes nous avons habité, ou combien de noms j'ai portés. Mon enfance devint un chaos de nouveaux visages, de nouvelles villes, avec les mêmes vieilles valises. On arrivait, on trouvait le deux pièces le moins cher. Mon père se mettait en chasse le lendemain et revenait chaque fois avec un emploi quelconque. Développeur photo, manager chez McDonald's, vendeur. Ma mère déballait le peu d'affaires que nous avions, j'allais à l'école en traînant les pieds. Mais je sais que je n'étais plus aussi bavarde, et ma mère non plus. Seul mon père resta incurablement gai. « Phoenix, j'ai toujours voulu connaître le désert. Cincinnati, ça c'est mon genre de ville. Saint-Louis, tout juste l'endroit qu'il nous faut. » Je ne me souviens pas avoir fait de nouveaux cauchemars. Ils s'arrêtèrent tout simplement ou furent repoussés à l'arrière-plan par des soucis plus pressants. Ces après-midi où je rentrais pour trouver ma mère sans connaissance sur le canapé. Les cours de cuisine accélérés parce qu'elle ne tenait plus debout. Préparer du café et l'obliger à l'avaler. Faire une rafle dans son porte-monnaie pour acheter des provisions avant que mon père ne rentre du travail. Je veux croire qu'il devait être au courant, mais aujourd'hui encore je n'en suis pas certaine. En tout cas, pour ma mère et pour moi, c'était comme si plus nous prenions de noms différents, plus nous abandonnions de nous-mêmes. Jusqu'à devenir des ombres éthérées et silencieuses dans le sillage mouvementé de mon père. Elle réussit à tenir jusqu'à mes 14 ans. Kansas City. 9 mois qu'on habitait là. Mon père s'était hissé au rang de responsable du rayon automobile chez Sears. Je projetais d'aller à ma première soirée dansante. Je rentrais à la maison. Ma mère, Stella, comme on l'appelait à ce moment-là, était à plat ventre sur le canapé. Cette fois-ci, j'eus beau la secouer. Pas moyen de la réveiller. Je me rappelle vaguement avoir traversé le couloir en courant, avoir tambouriné à la porte de la voisine. « Ma mère ! Ma mère ! Ma mère ! » hurlai-je. Et cette pauvre Madame Torres, qui n'avait jamais eu droit à un sourire ou à un bonjour d'aucun d'entre nous, ouvrit sa porte à la volée, traversa précipitamment le couloir et, levant les mains vers des yeux soudain humides, déclara que ma mère était morte. La police vint. Les secours. Je les regardais emporter son corps. Vit le flacon orange vide glisser de sa poche. Un des agents le ramassa et me lança un regard de pitié. « Quelqu'un à prévenir ?»« Mon père va bientôt rentrer. » Il me laissa avec Madame Torres. Nous attendîmes dans son appartement où flottait une puissante odeur de piment jalapeño et de tamal de maïs. J'admirais les rideaux à rayures vives qu'elle avait accrochés à ses fenêtres et les coussins à fleurs audacieux qui recouvraient son canapé marron fatigué. Je me demandais ce que ça ferait d'avoir à nouveau une vraie maison. Mon père arriva, remercia abondamment Madame Torres, m'entraîna dehors. « Tu comprends qu'on ne peut rien leur dire », ne cessa-t-il de répéter lorsque nous fûmes de retour à l'abri de notre appartement. « Tu comprends qu'il faut être très prudent. Je ne veux pas que tu dises un mot, Cindy. Pas un mot. Tout ça est très, très délicat. » Quand la police revint, il fut le seul à parler. Je réchauffais un bouillon de poule au vermicelle dans notre minuscule cuisine. Je n'avais pas vraiment faim. Je voulais juste que notre appartement sente comme celui de Madame Torres. Je voulais que ma mère revienne à la maison. Plus tard, j'ai trouvé mon père en larmes. Recroquevillé sur le canapé, il tenait la belle robe rose tout abîmée de ma mère. Il était incapable de s'arrêter. Il sanglotait encore et encore. Ce fut la première fois que mon père dormit dans mon lit. Je sais ce que vous vous dites, mais ce n'était pas comme ça. Une famille est un système. Nous avons attendu 3 mois le corps de ma mère. L'État voulait une autopsie. Je n'ai jamais rien compris à tout ça, mais un beau jour, on nous a rendu ma maman. Nous l'avons accompagnée de la morgue au funérarium. On l'a mise dans une caisse au nom de quelqu'un d'autre, puis on l'a envoyée dans la fournaise. Mon père a acheté 2 petites ampoules en verre au bout d'une chaîne. Une pour lui, une pour moi. Comme ça, a-t-il dit, elle sera toujours près de notre cœur. Leslie Ann Granger, c'était le vrai nom de ma mère. Leslie Ann Granger. Mon père remplit les ampoules avec des cendres et nous les passâmes à nos coups. Le reste de ses cendres fut dispersé au vent. Pourquoi acheter une tombe qui ne ferait que cimenter un mensonge? Nous retournâmes à l'appartement et cette fois-ci, mon père n'eut pas besoin de demander. Nos valises étaient prêtes depuis 3 mois. Ni Boomer, ni Doudou cette fois. Je les avais mis dans la caisse en bois de ma mère et je les avais envoyés avec elle dans les flammes. Quand on n'a plus de mère, il est temps d'en finir avec les objets puérils. Je choisis le nom de Sienna. Mon père serait Billy Bob, mais je lui permettrai de se faire appeler Bibi. Il leva les yeux au ciel, mais joua le jeu. Puisque j'avais ouvert le bal avec les noms, il choisit la ville. Nous partîmes pour Seattle. Mon père avait toujours voulu voir la côte ouest. Nous nous en sortîmes mieux à Seattle, chacun à sa manière. Mon père retourna chez Sears et, sans jamais révéler qu'il avait déjà travaillé dans un de leurs magasins, fut pris pour un employé naturellement doué et gravit les échelons à vitesse grand V. Je m'inscrivis dans une nouvelle école publique surpeuplée et sous-financée, où je me fondis dans la masse anonyme et sans visage des élèves moyens. Je commis également mon premier acte de rébellion. Je fréquentais une église. La petite église congrégationaliste se trouvait à une rue de chez nous. Je passais devant tous les jours sur le chemin de l'école. Un jour, je glissais un coup d'œil à l'intérieur. Le lendemain, je m'assis. Le 3e jour, je me retrouvais à discuter avec le pasteur. « Dieu laisse-t-il entrer les gens au paradis, demandai-je, s'ils sont enterrés sous un faux nom ?» Je parlais longuement au pasteur cet après-midi-là. Il avait des lunettes épaisses comme des culs de bouteille, des cheveux gris clairsemés, un sourire aimable. Lorsque je rentrais à la maison, il était plus de 6 heures, mon père attendait et il n'y avait pas de repas sur la table. « Où étais-tu » demanda-t-il. « J'ai été retenue. Tu sais à quel point je me suis inquiétée. J'ai raté le bus. » Je discutais d'un devoir avec un prof. J'ai dû faire tout le chemin à pied. Je ne voulais pas te déranger à ton travail. Je bredouillais, le rouge aux joues, d'une voix méconnaissable. Mon père me fit les gros yeux un bon moment. « Tu peux toujours m'appeler, » dit-il tout à coup. « On est dans le même bateau, Miss Inguette. » Il m'ébouriffa les cheveux. Ma mère me manquait, et j'allais dans la cuisine pour préparer le ragoût de thon. Le mensonge, découvris-je, crée la même dépendance que n'importe quelle drogue. Avant même de m'en apercevoir, j'avais raconté à mon père que je m'étais inscrite au club de débat de l'école, ce qui me procura bien sûr autant d'après-midi que j'en voulais pour aller à l'église, assister aux répétitions de la chorale, discuter avec le pasteur, tout simplement m'imprégner de l'atmosphère. J'avais toujours eu de longs cheveux bruns. Ma mère me les nattait quand j'étais enfant. Mais, adolescente, je les avais réduits à un rideau impénétrable que je laissais tomber devant mon visage. Un jour, je décidai qu'il m'empêchait de voir la vraie beauté des vitraux et j'allais les faire couper chez le coiffeur du coin. Mon père ne m'adressa pas la parole pendant 1 semaine. Et je m'aperçus, assise dans mon église, à observer les allées et venues de mes voisins, que mes sweats trop larges étaient tristes, que mes jeans baggy ne m'allaient pas. J'aimais les gens qui portaient des couleurs vives. J'aimais la manière dont cela attirait l'attention sur leur visage, soulignait leur sourire. Ces gens avaient l'air heureux, normaux, aimants. Je parie qu'ils ne mettaient pas 3 secondes à répondre chaque fois qu'on leur demandait leur nom. Alors je me suis acheté de nouveaux vêtements, pour le club de débat, et je me suis mise à passer toutes mes soirées du lundi à la soupe populaire. C'était obligatoire pour l'école et j'expliquais à mon père. On avait tous tant d'heures de travaux d'intérêt général à accomplir. Il s'est trouvé qu'un gentil garçon était aussi bénévole là-bas, cheveux bruns, yeux bruns, Matt Fisher. Matt m'a emmené au cinéma. Je ne me souviens pas du film qui passait. Je sentais la main de Matt sur mon épaule, la moiteur de mes paumes, ma respiration heurtée. Après le film, nous sommes allés prendre une glace. Il pleuvait. Il a tenu son manteau au-dessus de ma tête. Et alors, tous deux enveloppés dans son blouson qui sentait l'eau de Cologne, il m'a donné mon premier baiser. Je suis rentrée à la maison sur un nuage, les bras croisés autour de la taille, un sourire rêveur sur les lèvres. Mon père m'a accueilli à la porte. 5 valises se profilaient derrière lui. « Je sais ce que tu fabriques », déclara-t-il. « Chut !» dis-je en posant un doigt sur ses lèvres. « Chut !» Je passais en dansant à côté de mon père estomaqué. Je me glissais dans ma minuscule chambre aveugle et pendant 8 heures, je restais allongée sur mon lit et m'autorisais à être heureuse. Il m'arrive encore de penser à Matt Fisher. Est-ce qu'il est marié aujourd'hui ? Est-ce qu'il a 2 enfants, 2 ? Est-ce qu'il parle quelquefois de la fille la plus cinglée qu'il ait jamais rencontrée ? Embrassée un soir, jamais revue. Mon père n'était pas à la maison le lendemain matin. Il revint vers midi et me flanqua les faux papiers dans la main. « Et je ne veux aucune remarque sur les noms », dit-il en me voyant tiquer. J'étais désormais Tania Nelson, fille de Michael. Essayer d'obtenir ces papiers au pied levé m'a déjà coûté 2 briques.
« Mais tu as choisi les noms ?»
C'était tout ce que le type pouvait me donner.
« Mais c'est toi qui as rapporté les noms », insistai-je.
« Bon, bon, comme tu veux. » Il avait déjà une valise dans chaque main. Je restais inflexible, les bras croisés, le visage implacable.
« Tu as choisi les noms. Je choisis la ville. »
« Quand on sera en voiture. »
« Boston. »
Il ouvrit des yeux ronds. Je voyais bien qu'il avait envie de protester, mais c'était la règle. Une famille est un système. Quand on a passé sa vie à fuir la chose, on se demande forcément ce qu'on ressentira le jour où elle finira par vous rattraper. J'imagine que mon père n'a jamais eu à le savoir. Les flics ont dit qu'il était descendu du trottoir et que le taxi lancé à pleine vitesse l'avait tué sur le coup. Son corps a été catapulté à 7 mètres au-dessus du sol. Son front a percuté un réverbère métallique et s'est enfoncé dans son visage. J'avais 22 ans. J'avais enfin terminé mon laborieux parcours à travers une kyrielle d'école. Je travaillais chez Starbucks. Je marchais beaucoup. Je mettais de l'argent de côté pour une machine à coudre. Je montais ma propre entreprise de confection de rideaux et de coussins de canapé assortis. J'aimais Boston. Revenir dans la ville de mon enfance ne m'avait pas laissé paralysée de peur, tout le contraire en fait. Je me sentais en sécurité au milieu des foules constamment en mouvement. J'aimais flâner dans Public Garden, faire du lèche-vitrine dans Newbury Street. J'appréciais même le retour de l'automne, quand les jours prennent une odeur de chêne et que les nuits sont fraîches. Je trouvais un appartement ridiculement petit dans le North End, d'où je pouvais aller à pied à la pâtisserie Mike's pour manger des cannolis frais quand j'en avais envie. Je mis des rideaux, pris un chien, appris même à faire les tamales de maïs. Et le soir, posté devant ma fenêtre à barreaux du 5e étage, les cendres de ma mère au creux de la main, j'observais dans la rue les passants anonymes. Je me disais que j'étais adulte à présent. Je me disais que je n'avais plus rien à craindre. Mon père avait dirigé mon passé, mais mon avenir m'appartenait et je ne le passerai plus à fuir. Je n'avais pas choisi Boston par hasard et j'étais là pour de bon. Et un jour, tout s'est précipité. J'ai pris le Boston Herald et j'ai lu la nouvelle en première page. 25 ans après, on m'avait finalement retrouvée morte.